Bonjour tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 29 mars 1964, je crois, mais non, absolument n'importe quoi. Mercredi 28 mars 2018, oui, mais voilà, je tenais, comme sur le blog, je tenais à célébrer le 52e anniversaire du passage de Martin Luther King à Lyon, à la Bourse du Travail. À cette époque, il s'était adressé aux Lyonnais. Aujourd'hui, Christophe Rollin au micro, émission numéro 160, c'est Michel Chomara ainsi que Julien Adelard qui s'adresseront aux Lyonnais pour présenter, pour parler de cette exposition Martin Luther King, le rêve brisé. Point d'interrogation, on questionnera Michel Chomara sur cette ponctuation. C'est à la bibliothèque de la Part-Dieu, ça a commencé en février dernier je crois et ça durera jusqu'en avril. Et non, petite prolongation, elle n'est pas encore indiquée sur le site je crois de la bibliothèque, c'est assez étrange, ou alors je n'ai pas eu l'actualisation. Elle est prolongée jusqu'à la mi-mai. Donc il reste encore un peu plus d'un mois, une heure pour en parler. Aujourd'hui d'ailleurs j'y pense, une heure un peu étrange, hein. Il est 11h, enfin voilà, ça arrive parfois que Spectaculaire change comme ça d'horaire. Voilà, au lieu de l'heure du café, on passe à juste un peu avant l'heure de l'apéritif. Donc nous allons discuter jusqu'à midi, non pas jusqu'à 15h comme tous les mercredis. Et si vous nous écoutez, vous avez tout à fait raison de le faire, c'est sur le radiocanu.org sur internet ou bien le 102.2 de la bande FM. On va commencer avec un titre un peu dans l'actualité, Black Panther, mais Black Panther non pas mouvement des années 60-70, mais plutôt le film qui est sorti en février dernier, film de Marvel, la musique est de Kendrick Lamar. Ça va peut-être donner un peu le ton de l'émission. Et puis si ça ne marche pas, eh bien on écoutera le discours de Martin Luther King ou bien We Shall Overcome de John Baez. Enfin voilà, tout un tas de choses, comme d'habitude, jusqu'à midi. Et c'est très bien. Générique est terminé, mais nous écoutons Kendrick Lamar jusqu'à la fin.
Oh,
là là, ça se termine de manière un peu trop sèche. Bonjour. Non, il y a quand même quelque chose qui... si, allez, je crois que ça doit marcher normalement. En fait, c'est toujours dû à des... Il y a quelques problèmes, mais non. Nous sommes bien à l'antenne. Bonjour Michel.
Salut.
Bonjour Julien.
Bonjour.
Donc vous êtes ici avec nous aujourd'hui pour parler de cette exposition. Alors le temps que je règle un truc, il y a quelque chose qui moi ne me satisfait pas. Donc je vais essayer de régler la technique qui ne marche pas. Vous, je vous laisse parler. Comment présenter cette exposition qui est à la bibliothèque de la Part-Dieu? Vous avez la brochure sous les yeux, Julien. Elle a commencé...
Elle a commencé le 6 février.
C'est ça.
Date historique, puisque ça, moi, comme je suis très très vieux, ça me rappelle, j'ai pas vécu le 6 février 1934, mais on peut faire des liens. Je suis pas responsable de la date du choix de l'exposition, du vernissage de l'exposition, mais moi, le 6 février, ça me rappelle les ligues fascistes qui essayent de prendre le pouvoir devant l'Assemblée nationale. Fin de parenthèse.
Julien, ouvrez une autre parenthèse, je ne sais pas, parlons, parce que le but de cette émission, qui est un horaire un peu décalé, normalement, c'est, je le répète encore une fois, c'est à 14h, aujourd'hui c'est à 11h, le but un petit peu, comme d'habitude, comme très souvent, c'est d'inciter les Lyonnais à se déplacer à la bibliothèque de la Part-Dieu. Avons-nous dit que c'était la bibliothèque? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu. D'ailleurs, il y a un événement qui a lieu cette semaine. Sur la brochure, il n'est pas non plus dit, je crois, que ce sera à la bibliothèque. Donc tout se passe à la bibliothèque de la Part-Dieu. C'est à l'espace habituel.
Ça s'appelle la galerie.
La galerie, voilà. Et il y a des visites guidées. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, auditeur, j'en reparle une dernière fois, la raison pour laquelle cette émission n'a pas lieu à 14h, parce qu'à 15h, vous devez être Michel Chomara.
Oui, je fais une visite
sur le pont.
Oui, je fais une visite.
Une visite de cette exposition. Julien, à vous la parole. Julien Adelard, je ne l'ai peut-être pas dit, vous étiez déjà venus tous les deux pour l'exposition de Pier Paolo Pasolini, Una Vita Violenta. C'était l'émission numéro 104.
Il y a deux ans.
En juin 2014. Je vous en prie, Julien. Vous avez réaliser des photos. Je ne sais même pas quel fil nous donner. Vous m'avez empêché, Michel Chomara, de préparer l'émission comme nous sommes vus un petit peu avant. Donc, sur quoi partons-nous? Le voyage qui a lieu au mois de février, l'origine d'exposition avec l'hommage rendu à Robert Vial qui aurait dû y participer. Parlons de Christian Delorme. Bref, ce que vous souhaitez. Julien, je vous en prie, photographe.
Eh ben moi, j'interviens dans l'exposition sur la partie lyonnaise. Alors pas la partie lyonnaise 66, hein, bien sûr, mais la partie, je veux dire, la plus récente. Il s'agit en fait de photographies qui représentent le parcours des droits de l'homme, notamment, qui se trouve au parc de la Tête d'Or. Donc c'est une série de monuments. On y trouve le monument des droits de l'homme, avec un espace dédié à Martin Luther King. On a également la pagode Gandhi et le troisième qui était...
Tu viens de citer les trois.
Je viens de citer les trois, voilà, oui. Tout à fait.
Mais tu es aussi intervenu sur un très beau panoramique que tu as fait.
J'allais en venir. Merci. Également. Oui,
on aperçoit un vélo, hein, je crois. C'est vraiment très...
Il y a quelques vélos.
Un beau panoramique.
Il y a une voiture de police aussi, même.
C'est possible. C'est un panoramique de la place Guichard, en fait, de la place du travail.
La place du travail, oui. Un long panoramique qui fait 10 mètres de long, sur à peu près 1,50 m de hauteur. Qui montre la Bourse du Travail et qui va jusqu'au bus de Martin Luther King qui avait été inauguré par l'Hospitalité Abraham.
Oui, parce que l'association dont je suis le vice-président et dont Christian Delorme, le père Christian Delorme, est le président, nous avons financé le buste qui se trouve en effet devant la Bourse du Travail. Puisque c'est là, comme ça a été dit au début de l'émission, que le pasteur d'Atlanta, Martin Luther King, est venu s'adresser aux Lyonnais.
Le 29 mars 66. C'était 66, c'est bien ça. Julien, êtes-vous au courant aussi, je pense à l'Hospitalité Abraham, il y a un espace au parc de la Tête d'Or, c'est ça, qui est dédié à Martin Luther King? Michel, laissons parler Julien. Oui, Julien.
Il y a un espace qui est dédié à Martin Luther King au parc de la Tête d'Or. C'est une allée. Alors en mon sens c'est un petit peu sommaire, mais, Mais c'est déjà ça, c'est déjà ça. Au moins, c'est faire honneur de la mémoire de Martin Luther King et de sa venue à Lyon en 66.
Vous avez dit à mon sens, c'est-à-dire que pensez-vous plutôt qu'il y aurait pu y avoir Parlons.
Martin Luther King reste quand même une figure qui est très importante partout dans le monde, et c'est vrai que on a eu la chance de l'avoir à Lyon en 66, mais il n'y a pas beaucoup de traces aujourd'hui finalement de cette venue.
À part le buste,
à part cet espace, ça serait bien d'avoir plus de choses sur Martin Luther King, d'insister un peu plus, parce qu'il y a tellement de choses à faire partager autour de ces valeurs.
Peut-être que la transition là est toute trouvée. Vous étiez, était-ce en janvier ou février ? Vous étiez sur les pas de Martin Luther King par le biais d'un voyage organisé avec cette hospitalité Abraham. Pourriez-vous en dire quelques mots sur ce compagnonnage à 10, 9
Nous sommes partis à 9. J'étais le seul membre de l'hospitalité d'Abraham, je fais partie également de l'association, et nous sommes partis avec 8 autres personnes, la compagnie Second Souffle, une compagnie de danse hip-hop, sur les traces de Martin Luther King à Atlanta, à Montgomery et à Memphis.
Cette compagnie, comme ça on peut en dire un seul mot un instant, il y a le spectacle dont je parlais tout à l'heure qui n'est pas indiqué comme ayant lieu à la bibliothèque de la Part-Dieu, c'est ce samedi 30 mars, c'est ça?
C'est le mercredi 4 avril. C'est une journée de colloque et danse. La partie colloque à 14h à la bibliothèque de la Part-Dieu sera animée par Christian Delorme. 50 ans après, quelle postérité pour Martin Luther King, rêve brisé ou rêve en marche. Et à la suite de ce colloque, nous aurons l'occasion de pouvoir profiter d'un spectacle de danse qui se prénomme Ensemble, ça marche. Une rencontre sera modérée par Geneviève Ancel, coordinatrice des dialogues en humanité, et Azine Beni Youssef, qui était présent avec moi au voyage aux États-Unis, qui est directeur artistique de la compagnie Second Souffle.
Oui, je voudrais rebondir sur les dialogues en humanité, parce que c'est vrai que l'espace Martin Luther King est un peu dérisoire par rapport à ce qu'il représente, mais en tout cas ce lieu, c'est-à-dire cet enchaînement de lieux, que ce soit
le parc de la Tête d'Or,
que ce soit le monument des droits de l'homme, que ce soit l'île Gandhi et l'espace Martin Luther King, vivent quand même quelques jours en début juillet dans le cadre des dialogues en humanité. Donc j'invite aussi tous les gens qui nous écoutent à nous rejoindre au Parc de la Tête d'Or. C'est très bucolique. Geneviève Ancel, qui est la grande responsable des dialogues en humanité, invite des gens vraiment de très 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 intéressants qui sont justement engagés dans tout un tas de thématiques. Et donc c'est la première semaine, c'est le premier week-end de juillet. Fin de parenthèse.
Il faut revenir à ce voyage. Vous étiez, lors de ce voyage, vous étiez le photographe, artiste photographe, c'est ça? Et vous avez ramené, j'ai cru comprendre, un paquet de photos.
C'est quand on a la chance, l'opportunité de pouvoir voyager, de s'exporter un petit peu hors de ces frontières. C'est vrai que c'est intéressant pour un photographe de pouvoir faire un maximum de photos, parce que je savais que j'aurais pas forcément l'occasion de revenir sur les lieux avant un certain temps. Et il y a eu énormément de photos qui ont été faites. Alors à la fois sur...
Lancez le chiffre. Combien alors?
Je ne sais pas.
Plusieurs milliers, il n'ose pas le dire.
Je ne sais pas. Alors bien sûr, il y a un tri, un traitement qui est fait après. Et c'est là où ça prend plus de temps, plus que de les prendre presque. Il y a énormément de photos qui ont été prises. Alors à la fois autour de la compagnie Second Souffle, à la fois sur Martin Luther King, tout ce que l'on a pu croiser, voir à son sujet, et aussi tout simplement aussi sur le pays, sur les gens qui peuplent les villes. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir aussi finalement comment vivent les gens. Il y a un lien qui se fait entre avant et après. Donc
dans l'Amérique de Donald Trump.
Et pour ce qui est de ce voyage sur ses pas, vous dites, de Martin Luther King, est-ce que vous avez pu sentir ou même voir, est-ce qu'il y a des lieux dédiés, est-ce qu'il y a des vestiges, différentes traces, parce que tout ça était amorcé par ce, à mon sens, que vous avez dit tout à l'heure sur cet espace de la Part-Dieu, enfin du moins du parc de la Tête d'Or, n'importe quoi, sur le fait qu'à Lyon il n'y ait pas encore
il n'y a pas de rue,
on pourra peut-être en parler tout à l'heure, oui. Michel Chomara, est-ce que vous vous militez pour qu'il y ait une rue, une place, enfin n'importe. Je crois qu'il y a une plaque dans l'exposition.
Fausse plaque.
Voilà, une fausse plaque, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a, Julien, sur ces différents lieux, vous avez indiqué, donc, bien entendu, Atlanta, c'est ça,
Atlanta,
là où il est né.
Tout à fait, ouais.
Montgomery, la paroisse qu'il a eue.
D'abord Memphis.
Dans l'ordre, ça a été Atlanta, Montgomery et enfin Memphis. Après, on avait fait également New Orleans, mais là, c'était plus pour le fun.
Atlanta, vous avez retrouvé la maison où il est né, c'est ça, le quartier où il a grandi, ou
c'est ça, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, c'est un quartier qui est en tout cas une partie du quartier qui est complètement dédié à Martin Luther King.
Ah d'accord, sanctuarisé.
Un mémorial, un centre de droit civique. C'est assez fort.
Alors forcément, en revenant en France, en voyant les quelques traces qu'il y a à Lyon, bien entendu, vous dites à mon sens, il n'y a rien.
Il faut vraiment dire pourquoi il n'y a pas de traces. Parce que, j'y vais droit, l'histoire lyonnaise, elle est comme l'histoire de France. Elle est blanche, elle est catholique, elle est hétérosexuelle. Alors quand en plus, comme Martin Luther King, c'est un black, en plus autour de lui, il y avait des blacks gays, il y avait des blacks bi, il y avait des blacks lesbiennes, il faut assumer tout ça. Mais en tout cas, à Lyon, je ne vais pas refaire le numéro, on est là, rue Sergent Blandan, etc., etc. Moi qui suis un grand admirateur de l'émir Abdelkader, je veux dire, il y a du boulot là. Hein. Julien, il a 30 ans, donc il a toute l'avenir pour faire bouger les choses. Hein. Moi, je commence à être un peu fatigué, mais je lui transmets volontiers cette responsabilité. Mais voilà, pourquoi il n'y a pas de traces? Parce que Martin Luther King, ça emmerde tout le monde, quoi. On préfère des, comme je répète, des Lyonnais ou même des gens, mais qui soient blancs. Qu'il soit catholique, hétérosexuel. Fin de parenthèse, Juju, à toi.
Dans l'interview au petit bulletin, vous parlez des rues. Elles sont très bien, ces rues lyonnaises, Lafayette, Créqui. Qu'est-ce qu'il y a encore, Vendôme, Saxe? Oui, il n'y a pas beaucoup, peut-être.
Non, parce qu'on n'arrête pas de parler de diversité, du vivre ensemble, tout ce que l'on veut. Mais la première traduction, c'est les noms de rues. Ils sont tous blancs, ils sont tous ci, ils sont tous là. Mais bon, c'est aussi le rapport de force dans la cité, hein, y compris par les Noirs de l'Afrique subsaharienne. C'est aussi à réclamer. Il se trouve que je suis blanc, je suis gay, etc., etc., etc. Moi, je fais ce que je peux, mais c'est le rapport de force à la mairie centrale. C'est comme ça. Hein. Vous avez combien de légions? Vous avez combien de généraux? Vous avez combien de soldats?
Julien, le lieu donc à Atlanta est dédié. Vous dites qu'il y a différents noms de bâtiments, c'est ça? Vous parliez de
quelque chose d'assez, pour moi, important. Alors, c'était pas forcément ce qui est le plus visité, mais pour moi, c'est assez marquant. C'est sa maison, déjà. Sa maison qui évidemment, porte toutes les traces de son vécu.
Où il naît le 17 janvier, je crois, 1929. Oui. Il pourrait être encore vivant. Hein.
Sa sœur est vivante. Hein. Julien l'a rencontré.
Cette maison, elle existe encore, on peut la visiter? Oui, c'est ouvert au public.
Elle est visitable, oui, tout à fait. Ouais. C'est des visites gratuites, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, sur réservation, parce qu'il y a quand même
pas mal de monde.
Surtout au moment où nous sommes allés, c'était l'anniversaire, donc on fait en période d'anniversaire, donc il y avait quand même pas mal de monde.
L'anniversaire du 50e anniversaire de l'assassinat.
Ouais, et l'année prochaine, ce sera le 90e anniversaire, c'est ça, le 17 janvier, je suppose, 2019. Il y aura certainement...
Et un scoop, c'est le 5e centenaire du début de l'esclavage en 1619. Et donc, 5 siècles après, l'année prochaine, peut-être vous nous réinviterez.
Pour commémorer, hein, plus que célébrer. Julien, oui.
Sur les dates, je pourrais faire juste une petite parenthèse sur le mois de mai, qui va être aussi quand même assez important aussi, je pense. Ça sera aussi les 50 ans de
mai 68,
un grand événement
auquel tu avais bien sûr participé.
J'aurais aimé, mais ça se perdure tout ça. Donc, le combat continue.
Le voyage commençait à Atlanta avec la maison. Même chronologique, c'est ça, le début du voyage. Vous l'avez fait au début de la vie de Martin Luther King.
Voilà, Atlanta, ouais, tout à fait. Puis en termes de transport, c'était plus simple de pouvoir atterrir à Atlanta de France. Donc on a commencé par là. Donc on y trouve la maison de Martin Luther King. Il y a également un centre des droits civiques, l'Ebenezer Baptist Church, l'église où prêchait Martin Luther King.
Où a été assassinée sa propre mère.
Où a été assassinée sa propre mère. Et lors de notre visite, donc du coup de ces lieux, alors ce qui m'est arrivé, c'était c'est assez fort pour moi, assez émouvant et complètement inattendu, c'est que le premier jour donc de notre voyage sur les pas de Martin Luther King, j'ai eu la chance avec un autre membre du groupe de pouvoir tomber complètement par hasard sur la sœur de Martin Luther King, et j'ai eu l'opportunité de pouvoir, comment dire, tirer le portrait. Donc ça a été un grand moment. Court, un peu bref. C'est une dame qui n'est plus.
Elle a 90 ans, elle va sur ses 91 ans au mois de septembre.
Tout à fait, Christine King Faris.
Christine, oui.
Donc je n'ai pas abusé de son temps, mais pour un photographe, j'ai eu l'opportunité de pouvoir la photographier. Et cette photo sera à partir d'aujourd'hui, c'est
oui,
ça ?
Oui, elle est exposée.
Va être exposée à l'exposition
Martin. À la galerie King, de la Bibliothèque municipale de Lyon. Et nous en avons l'hospitalité d'Abraham en a fait une carte postale qui est accessible et gratuite.
Distribuée gratuitement lors de l'exposition.
Si vous en voulez, auditeur, bien entendu, rendez-vous à la bibliothèque de la Pardieu, et puis j'en mettrai à Radio Canu. Venez pousser la porte.
Oui, pour récupérer la carte.
Elle est souvent ouverte pour trouver cette belle photo où on lui voit un regard grave, un peu, enfin du moins. D'ailleurs, est-ce qu'on reconnaîtrait un peu le regard de son frère? Non,
pas
forcément.
C'est... Ah ben oui, si, et les yeux, je sais pas.
Et les couleurs, donc il n'y a aucune... Enfin du moins, c'est vraiment, vous avez dit, un totalement inattendu. Il n'y avait pas donc d'effort de pose de sa part. Elle n'a pas mis ce chapeau particulièrement ce jour-là pour une photo du Nadlar.
Ce qui s'est passé, c'est que, nous l'ignorons, il y avait un colloque ce jour-là. Il y avait un colloque conférence, sauf qu'on est arrivé trop tard, et on l'a appris sur place, on dit bon, tant pis pour nous. Et à la fin du colloque, quand tout le monde est parti, j'avais intérêt de vouloir photographier l'église à l'intérieur. Alors la gardienne nous dit que c'est pas possible, parce qu'apparemment les visites sont payantes, et bon. Sauf que pendant nos négociations, est arrivée en dernier lieu, parce qu'elle ne marche plus très rapidement, la sœur de Martin Luther King. Et là, on nous a autorisé à aller la voir et à partager quelques minutes avec elle.
C'était le dimanche 18 février 2018, c'est donc indiqué sur cette carte postale qui est en accès libre dans de nombreux endroits. C'est un portrait intéressant, enfin du moins il y a quelque chose. Suite du voyage, vous...
Mais je n'ai pas fait que... J'ai eu également à ce moment-là, notre parenthèse, de pouvoir rencontrer et photographier également le révérend Albert Paul Brinson, qui a été plus ou moins un compagnon de Martin Luther King, qui s'est investi pour initiateur des mouvements étudiants de l'époque, qui a participé aux marches de Selma, de Washington, qui a remplacé Martin Luther King à l'Ebenezer Baptist Church quand il était absent. Donc ça a été aussi une chance de pouvoir rencontrer aussi ces personnages, je voulais le souligner.
Et alors donc, que ce soit les lieux ou les gens,
il y a une âme.
On sent quelque chose, oui.
Il y a quelque chose de fort, bien sûr. C'est poignant, mais quand on a un intérêt pour Martin Luther King et pour son combat et ses valeurs, bien sûr.
Peut-être que ce que nous pourrions faire à 11h26, c'est quand même vous ménager une pause dans cette interview, parce que là, Julien, vous avez beaucoup parlé. Il reste encore à parler, puisque la suite, Montgomery, c'est ça ? Vous allez là où il a sa paroisse. Et puis, bien entendu, vous terminez à Memphis, là où il a été assassiné.
Au Lorraine Motel.
Le 4 avril 1968. Donc, c'est-à-dire que mercredi prochain, auditeur, l'émission, d'ailleurs, oui, on aurait dû la décaler, hein, Michel. On aurait dû la faire la semaine prochaine pour faire une émission anniversaire. Enfin, non, c'est toujours aussi délicat, l'idée. C'est une émission pour commémorer.
C'est très bien, voilà, comme ça. Ouais,
le 50e, cette date du décès de Martin Luther King. Donc, moi, je vous propose, j'avais We Shall Overcome, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être que là, ce qu'on pourrait faire, puisque vous parlez d'une âme, ce que nous pourrions faire, bien entendu, ça s'imposerait presque, c'est entendre une voix et entendre celle de Martin Luther King qui parle. Alors, je n'ai pas choisi n'importe quoi au hasard, c'est un montage d'ailleurs, les choses s'enchaînent alors qu'il y a eu un peu plus de temps. C'est son fameux discours à Washington. Il faudra qu'on en dise un mot juste après, Michel. Michel Chomara, vous l'avez édité dans cette collection Mémoires Actives, 63 64, 66,
les oui, donc 63, c'est le discours de Washington, 64, c'est le prix Nobel de la paix à Oslo, et 66, c'est le discours qu'il a prononcé à la Bourse du Travail.
À Lyon, donc ouais. Ça fait Washington, Oslo et Lyon sur un même plan.
Même combat.
C'est très bien. Donc écoutons quelques minutes, on va peut-être pas l'entendre en entier, mais écoutons la voix de Martin Luther King dans ce discours de août, je crois, c'est ça, il me semble.
Le 28 août 1963, oui. Qui était pas la marche des droits civiques, c'était une marche en réalité pour le travail. Pour avoir du travail et pour les droits. Et c'est devenu alors un nom générique, la marche Washington.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not
Alors,
be judged
oui,
by
c'est de l'anglais forcément, puisque c'est la voix de Martin Luther King lui-même. Ce que je vous propose de faire, auditeur, c'est peut-être de laisser sa voix éventuellement en fond sonore, peut-être pas trop fort, pour que je puisse faire la traduction. Donc vous allez en reparler, Michel Chomara, parce que cela est important. Cette publication Mémoire Active, je l'ai mis au pluriel il y a quelques instants, Mémoire Active, MLK 63, 64, 66, ce sont les trois discours. Et si vous avez cette brochure qui est accessible, mais elle n'est pas en accès libre. Elle est gratuite, mais il faut la demander.
Il faut la demander à l'accueil de la bibliothèque de Lyon.
Donc si vous êtes dans cette brochure, à la page centrale presque, je vous le dis. Ici et maintenant, mes amis, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. C'est un rêve profondément ancré dans l'idéal américain. Je rêve qu'un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes, par elles-mêmes, que tous les hommes sont créés égaux. J'en lis encore quelques paragraphes et puis nous reparlerons encore de cette exposition. Je rêve qu'un jour, sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, même l'état du Mississippi, un état où brûlent les feux de l'injustice et de l'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Je termine parce que c'est vraiment très court. Ensuite, la fin du discours sera consacrée à la cloche de la liberté qui doit sonner sur maintes collines et sur d'autres montagnes. Je fais aujourd'hui un rêve. Je rêve qu'un jour, même en Alabama, avec ses abominables racistes, avec son gouverneur à la bouche pleine de mots opposition et annulation des lois fédérales, que là même en Alabama, un jour, les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main comme frères et sœurs. Je fais aujourd'hui un rêve. Je rêve qu'un jour toute la vallée sera relevée, toute colline et toute montagne seront rabaissées, les endroits escarpés seront aplanis et les chemins tortueux redressés. La gloire du Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. Michel Chomara, oui.
Ben justement, on est parti, lorsqu'on a réfléchi sur le titre entre de l'exposition, nous sommes partis de ce discours avec la notion de rêve, et d'où le titre Martin Luther King, le rêve brisé, point d'interrogation. Puisqu'il y a eu une discussion entre Christian Delorme, la direction de la bibliothèque et moi-même. Moi, j'étais partisan de pas mettre de point d'interrogation, parce que pour moi, le rêve était brisé, surtout depuis l'arrivée de Donald Trump aux affaires aux États-Unis. Et puis, lorsque nous avons discuté, notamment ce que disait Christian Delorme, il me disait qu'il ne faut pas oublier qu'en 2009, il y a eu l'élection du premier président noir des États-Unis, qui a été brillamment réélu, parce que moi j'étais un peu arc-bouté sur les États-Unis d'aujourd'hui, avec les déclarations hallucinantes de Trump, lorsqu'il parle des footballeurs américains, ses fils de pute, lorsqu'il interdit un billet de banque à l'une des grandes grande, comment dire, l'une des grandes responsables de la lutte pour les droits civiques, etc. Lorsqu'il arrive dans les, dans
le bureau ovale,
le bureau ovale, le premier jour, lorsqu'il arrive dans le bulletin, le bureau ovale, la Maison Blanche, la première chose qu'il fait, il enlève le buste de Martin Luther King pour le remplacer, paraît-il, par le buste de Winston Churchill. Et les mauvaises langues disent, il sait pas que Churchill était anglais, était pas américain. Bref. Donc, quand on parle là-dessus, on aimerait, on se dit plutôt le rêve, il est vraiment brisé. Et alors, on parle de la marche à Washington. Il se trouve, et ça c'est sympa de nous avoir invités aujourd'hui, parce que dimanche, il y a eu une marche hyper importante à Washington, dans les mêmes lieux, organisée par les jeunes contre la prolifération des armes à feu et de tout ce qui suit, notamment dans les drames et les massacres dans les écoles. Et c'est tout à fait hyper intéressant. En 2018, les jeunes se saisissent dans les mêmes lieux, en plus à Washington, en faisant une marche. Qu'est-ce qui c'est qui était là?
C'est très beau ce qui s'est passé, et c'est assez prometteur, je pense, peut-être. Elle est un peu jeune encore, mais...
Julien, oui.
Mais l'avenir nous dira jusqu'où elle va aller pour nous rassembler. Il s'agit de arrière petite fille petite fille de Martin Luther King, Yolanda. Je vais écorcher peut-être le nom parce que mon anglais n'est pas forcément très bon. Yolanda Rinae King, qui
âgée de 9 ans.
Âgée de 9 ans, c'est ça.
Qui a pris la parole.
Qui a pris la parole.
Et il y a des allers-retours extraordinaires.
Qui a suscité une vive émotion à Washington, et c'est... Donc, c'est un bel hommage.
Oui, le message de Martin Luther King à travers sa famille et sa dernière descendante vit toujours dans les mêmes lieux, en plus, à Washington.
Nous parlons bien, auditeurs, à 11h35 de l'exposition Martin Luther King. Vous l'avez indiqué à l'instant, le commentaire de ce titre, Le rêve brisé, point d'interrogation, une exposition et des rendez-vous culturels qui ont lieu du 6 février, cela a déjà commencé, jusqu'au 28 avril, c'est ce qui est indiqué sur la brochure.
Oui, mais on prolonge jusqu'au 12 mai,
voilà, je crois
vu le succès que l'expo
samedi 12 mai.
Remporte.
C'est à la galerie, l'espace de la bibliothèque de la Pardieu, l'entrée en est tout à fait libre, et donc... Cette exposition, on va peut-être reparler un peu des lieux, mais avant cela, il faut tout de même, Julien, bien boucler ce voyage que vous avez fait. On a évoqué en première partie d'émission le début de ce voyage qui se fait à Atlanta, avec donc différents monuments, différents endroits qui lui sont consacrés. Vous avez continué ensuite à Montgomery. Y a-t-il encore des traces? Y a-t-il de la même manière des lieux sanctuarisés consacrés à Martin Luther King? Ou est-ce que c'est un peu plus...
Et à Rosa Parks?
Oui, c'est très juste, puisqu'en 1954-55, l'affaire des bus.
Les bus.
Julien, je vous en prie, oui. Julien Adelard, photographe.
Et à Montgomery, on retrouve, il y en a quand même plusieurs, alors c'est des dominations un peu différentes, mais en tout cas dans toutes les villes qu'on a fait, il y a des centres de sur les mouvements des droits civiques, qui reprennent l'histoire des mouvements civiques. Et donc à Montgomery, on retrouve un centre musée. Qui est à l'honneur des droits civiques, sur l'histoire des droits civiques. On a également l'église où il prêchait, qui est toujours en activité d'ailleurs, et c'est un moment assez fort. On s'est retrouvé avec donc les danseurs dans l'église. Il a fallu se présenter et faire, pas pour moi parce que je ne suis pas qualifié pour ça, et faire une petite démonstration de danse hip-hop dans l'église avec beaucoup de gens qui étaient autour de nous et qui nous donnaient le rythme en tapant des mains. C'était fort, c'était pas mal. C'était
émouvant.
Et très émouvant.
Et il y a encore une âme là-bas, oui. Il y a des
bien
choses
sûr, bien
on,
sûr.
Sent, on ressent, oui.
C'est... Bien sûr, et puis comme Michel vient de le dire, c'est aussi la ville de Rosa Parks. Donc bien sûr, oui, il y a quelque chose de très puissant encore en ces lieux, oui, bien sûr.
Terminons sur ce dernier lieu où vous êtes
sur
allé.
Memphis.
N'évoquons pas la New Orleans, la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Donc, Memphis au Tennessee. Il se déplace, je crois, pour une grève.
Des éboueurs. Il vient défendre les éboueurs qui sont en grève.
Qui ont un tarif, je crois avoir lu, c'était quelques dollars qui touchaient. C'était absolument dérisoire.
Il a fait un discours la veille sur son assassinat.
Je suis allé on the mountain top. Je suis allé sur le sommet de la colline et. Je n'ai plus ce discours sur moi, mais enfin du moins j'en avais quelques phrases et je sais que je n'irai pas plus loin. Enfin du moins il y avait cette idée-là, il me semble. Julien, oui.
Et donc à Memphis, on retrouve
le motel.
On retrouve le motel, le Lorraine Motel, où fut assassiné Martin Luther King. Motel qui est devenu un musée également. Très grand musée, très bien réalisé. Toujours sur l'histoire des droits civiques. Alors ça part de très loin dans l'histoire.
Il commence au XVIIe siècle.
Oui, alors moi, ce qui m'a un peu, bon, c'est très américain, c'est que bon, sur la partie droits civiques, il y a quelque chose qui est complètement occulté. C'est l'histoire des Indiens.
Mais ça, on va tout faire.
Mais ça, on
la
pas
prochaine
tout faire,
émission, mais la bon, prochaine expo.
Oui, c'est cette question-là. Je l'ai. J'ai retrouvé quelques phrases de ce discours prononcé à Memphis le 3 avril, à savoir la veille de son assassinat. Oui. Ce qui va m'arriver maintenant m'importe guère. Nous avons devant nous des journées difficiles, mais peu m'importe ce qui va m'arriver maintenant, car je suis allé jusqu'au sommet de la montagne, the mountain top. Je ne m'inquiète plus. Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps, la longévité à son prix. Mais je ne m'en soucie plus maintenant. Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite. Et il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. Et j'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y pénètre pas avec vous, mais je veux vous faire savoir ce soir que nous atteindrons la terre promise. Ainsi, je suis heureux ce soir, je ne m'inquiète de rien, je ne crains aucun homme. Prononcé le 3 au soir, je crois, il est assassiné le 4 à 18h, me semble-t-il, dans le motel. Vous parliez tout à l'heure d'une manifestation contre les armes à feu. Je ne savais pas ça, auditeur, j'avoue mon inculture, mon ignorance. Je pensais que c'était à l'arme blanche qu'on l'avait poignardé. Non, on lui tire dessus, et notamment une balle, je crois, le latin à la gorge.
Une balle latin à la gorge,
ces armes à feu, c'est quand même effrayant. Enfin,
attention, je crois que c'est l'article 2 de la Constitution américaine qui dit que...
Le second amendement.
Voilà, le second amendement. Nous avons, chaque Américain peut avoir des armes, mais il faut comme toujours mettre ça dans une perspective historique. On l'oublie. Et puis nous, Français, on est peut-être mal placés de donner des ordres à la terre entière.
Mais des armes.
Non, parce que quand les États-Unis se sont constitués, ils se sont aussi constitués contre le reste du monde aussi. Et donc, c'était presque naturel, en tout cas, dans une nation qui se construit, que chaque individu ait une arme pour pouvoir éventuellement défendre la nouvelle patrie.
Ou descendre des personnes qu'il rencontrait. On parlait des Indiens à l'instant, on mélange tout, mais un film est sorti il y a peu de temps, Hostile, un film qui retrace les dernières années, je crois, d'un colonel sudiste, nordiste, je crois que nordiste, me semble-t-il, tout de même auteur de certaines horreurs,
Exaction.
Incarné par Christian Bale, exactement, et on le charge, ultime mission après la guerre de sécession, on le charge d'accompagner un Indien dans une tribu, et il me semble que je n'ai pas vu ce film, je crois avoir compris qu'il doit se dire qu'il a fait un paquet de conneries. Ou alors que les choses sont un peu plus compliquées que seulement cette phrase d'un général américain, un général certainement du Sud, un bon Indien est un Indien mort. Julien, donc Memphis, le voyage se termine là. Pareil, encore, je n'ai que ce mot à la bouche, encore une âme, quelque chose. On sent, et d'ailleurs, un peu des larmes peuvent venir peut-être, non ? Enfin, je ne sais pas.
C'est...
L'émotion, oui, bien sûr. On a toute la partie du musée qui reprend donc l'histoire des droits civiques. On a des passages sur Martin Luther King, bien sûr, des différentes marches qui ont eu lieu. Et puis surtout, la visite se termine. Alors, par la boutique, bon, ça, c'est un peu inévitable.
Business, le business.
Mais avant la boutique, donc, on termine par les deux chambres, donc celle de ses gardes du corps et la chambre de Martin Luther King, juste devant le balcon où il a été assassiné. Et quand on passe la porte avant d'arriver dans la boutique, là, oui, il y a quelque chose qui nous prend, qui nous saisit, c'est inexplicable.
Peut-être pouvez-vous expliquer quelque chose, Michel Chomara, ce qui est arrivé à James Earl Ray, son assassin. C'est une cavale, enfin des éléments assez... Ou alors ce n'est pas intéressant peut-être.
Non, très rapidement, parce qu'on pose souvent la question, alors qui était son assassin, d'où il venait, pourquoi il était là, par qui il était manipulé. C'est un homme de paille, comme dans tous les... dans l'histoire des États-Unis.
Ce n'est pas Lee Harvey Oswald qui a assassiné
non, mais bon, donc il a été condamné à 99 ans de prison parce qu'il a plaidé coupable, autrement c'était la peine de mort. Finalement, il s'est échappé à plusieurs reprises, ça prouve en effet que bon...
Des connivences.
Oui, il y avait des connivences. Et puis il a fini par mourir dernièrement. Mais bon, j'allais dire peu importe. Le problème, c'est que Martin Luther King a été assassiné il y a 50 ans. Voilà. Et quel est le message? Qu'est-ce qui reste pour les nouvelles générations? Moi, c'est ce qui est le plus important. Après, bon, c'est vrai que les gens, quand je fais les visites...
Notamment une tout à l'heure, mercredi 28 mars, à 15h.
Oui. Et donc, souvent, les gens sont un peu dans le crapuleux, un peu dans le fait divers. Ils sont pas tellement dans l'âme.
L'anecdotique, ou disons.
Oui, voilà. Parce que Martin Luther King, c'était aussi un homme de foi. C'était un homme qui était transcendé par la foi, qui était porté par la foi, comme Gandhi d'ailleurs. Et d'ailleurs, Christian Delorme, le père Christian Delorme, s'inscrit tout à fait dans cette démarche à la fois de Gandhi et de Martin Luther King.
Peut-être pourrions-nous écouter la fin du discours que Martin Luther King a adressé aux Lyonnais à la Bourse du Travail en 66, un 29 mars, à savoir nous sommes aujourd'hui le 28, donc demain cela fera 52 ans. La fin du discours, attention, non pas le discours lui-même, mais plutôt il demande dans toujours cette brochure que vous pouvez acquérir, auditeurs, en vous rendant bien.
MLK 63, 64, voilà. 66.
La fin du discours, je vous donne ces derniers mots. Assurez de votre aide et de votre prix. Hier, je me sens d'autant plus fort pour chanter avec vous We Shall Overcome, nous triompherons un jour. Donc écoutons la chanson de John Baez qui était, je crois, chantée justement à Washington,
oui,
en 63.
Elle était avec Bob Dylan qui était son petit copain à l'époque.
Donc écoutons cette chanson et puis ensuite, dernier instant d'émission, peut-être pourrions-nous davantage parler vraiment de ces différents lieux de cette exposition avec cette scénographie qui permet dans le troisième sas, troisième, une fois passé l'accueil, une fois passé la cellule, la geôle, eh bien on arrive, on est manifestant.
L'idée de la scénographe qui s'appelle Sylvie Bouteille, qui est d'ailleurs une scénographe interne à la bibliothèque, c'était de qu'il y ait une idée de mouvement et qu'on soit porté comme en 1963 et qu'on devienne plus de 50 ans après, 55 ans après, qu'on devienne des manifestants. Alors, je viens de le dire qu'on aurait pu être ce week-end à Washington pour revivre une autre manifestation. Ça veut dire aussi que l'histoire et des lieux et des personnes se répètent et se complètent et s'enrichissent et se nourrissent les unes des autres.
Car le combat n'est pas achevé.
Michel Julien, on va presque en faire partie de cette manifestation de 63, puisque donc voici John Baez, We Shall Overcome, une chanson qui tenait à cœur à Martin Luther King. Alors bien entendu, je dis qu'on va l'écouter et cela ne marche pas. Où se trouve-t-elle, John Baez? Ah si, elle est là.
Elle est là. Ooh. Les marches.
Les marches, vous avez tout à fait raison, Michel Chomara. Le titre se termine, voilà. Ce n'était pas John Baez qui était dans les studios, c'était donc un. C'est pas non plus le titre, il est disponible sur internet, je la mettrai, cette vidéo est disponible à, je crois, une sorte de prise de vue de sa chanson de ce 28 août 1963, John Baez, We Shall Overcome. Nous, pour les minutes qui restent, nous allons encore en présence de auditeurs, vous l'aurez remarqué, hein, Gérald aujourd'hui n'est pas là, non, l'horaire décalé fait que tout n'était pas possible. En présence de Michel Chomara et de Julien Adelard, terminons. En parlant encore de cette exposition, en parlant plus précisément, Julien, je vous en prie, la journée du...
Plus, hein. Rien du tout.
Ah, ouais. Mon Dieu, ciel.
Il y a un problème ?
Je sais pas.
Technique ?
Tout est monté pourtant. Mais bon. L'émission est enregistrée, donc à défaut d'être écoutée en direct, elle sera rediffusée. il est bien aimable ce Gilles. La journée du mercredi 4 avril, est-ce que nous en parlons davantage, Michel, ou est-ce que nous faisons un parcours dans cette exposition avec quoi
non,
vous avez indiqué
non,
sur les la scénographie.
L'expo, il faut venir la voir.
Ah, il faut
c'est toujours
ça,
c'est redoutable ça, d'expliquer à la radio une exposition.
Je crois. En famille, entre amis, il se trouve surtout amener des jeunes. Je pense que c'est important.
Le point d'orgue, c'est en effet la journée du 4 avril. Donc il va y avoir tout un tas de... Il y a un colloque qui rassemble plusieurs auteurs qui ont écrit sur Martin Luther King et qui vont être, j'allais dire, drivés par le père Christian Delorme. Donc c'est un débat, c'est des rencontres de grands spécialistes français et étrangers d'ailleurs, il n'y a pas que des Français qui vont parler de Martin Luther King et pour faire un peu le bilan le 50 ans après, qu'est-ce qui reste du message de Martin Luther King.
Avons-nous dit que ce qui est exposé dans cet espace
non, de la galerie... Non, on l'a oublié complètement, et comme les choses les plus importantes, on les oublie toujours, et puis après, lorsque les émissions sont terminées, oh merde, j'ai oublié ça. Donc en effet, c'est bien gentil d'avoir un commissaire qui
est... Vous-même, Michel Chomara.
Qui est ma propre personne. Mais non, commissaire général, j'aime bien commissaire général. Peu importe, mais c'est bien d'avoir une scénographe, mais si on n'avait pas la collection du père Delorme, on aurait été un peu en difficulté. Puisqu'à 90% les pièces extraordinaires qui sont exposées font partie de sa collection, puisqu'il est discret là-dessus. Il a écrit un livre, il est en train de rédiger un autre livre sur Martin Luther King, mais parallèlement à son rapport à Martin Luther King, car lui, il était en 1966 à la Bourse du Travail.
Avec Robert Vial.
Avec Robert Vial, moi j'y étais pas, mais j'étais pour d'autres combats.
Mais vous n'étiez pas comme les élus lyonnais, on le dit une seconde, non
ils étaient absents parce qu'ils préféraient saucissonner et boire du Beaujolais, puisqu'ils inauguraient la foire de Lyon.
Ah,
ça montre en effet l'intérêt.
C'est un combat qui vient à Lyon.
C'est un combat permanent. C'est un combat permanent à l'époque et 52 ans après, c'est toujours le même combat sur cette histoire de rue, cette histoire de restitution dans l'espace public de la mémoire, j'allais dire des marches, qu'ils soient black ou autres. Ça a été le même problème pour l'émir Abdelkader, pour que je me batte pour qu'il y ait une place. Bref. Voilà.
Donc nous disions le fond.
Oui, le fond, les objets, et surtout les documents. Il y a des choses vraiment hyper importantes. C'est une des plus belles collections, je crois, qu'on peut trouver, je ne sais pas, dans le monde, en tout cas en Europe. En France, c'est sans doute la plus belle exposition. Et c'est tout à l'honneur de Christian de nous avoir permis de pouvoir la montrer à un très large public.
Les photos, est-ce qu'on peut les commenter peut-être, les quelques photos du photographe de cette époque, j'ai mangé son nom, Julien Adelard, ce confrère qui je crois qu'il est encore vivant, j'ai en tête le nom de Eberhardt, mais je me trompe, Eberhardt, ça c'est plutôt le traducteur, et c'est le... Comment s'appelle-t-il ce photographe qui était à la Bourse du Travail, lui allez, son nom est indiqué, on va feuilleter la brochure, le premier qui l'aura trouvé aura gagné. Donc,
Georges Vermar.
Georges Vermar.
Ah voilà, c'est ça.
Georges Vermar.
Est-ce que des photos un peu noir et blanc certes, mais prises dans une forme d'obscurité, il me semble, non? Elles sont assez sombres.
Alors c'est oui, oui,
la gravité, la sonité.
Non, non, parce que la salle, moi j'y étais pas, mais la salle était quand même plutôt dans l'obscurité.
Mal éclairée, oui.
Si c'est des gens, je fais une conférence là-dessus sur la restitution de la mémoire photographique de cette soirée. Elle est très très limitée. Il y a très peu de documents, il y a très peu de choses. Comme là aussi, je remets une couche, comme si cet événement, il fallait vraiment le gommer de l'histoire lyonnaise. Donc, et là, j'ai expliqué, ça s'appelle l'heure de la découverte, mais c'est complet depuis 5 ans, je plaisante.
Samedi 31 mars à 14h30.
Voilà. Mais il y aura d'autres séances après la fermeture de l'expo.
Parmi les 14 600 négatifs du photographe Georges Vermard, né en 1934, conservé par la bibliothèque, il faut citer le reportage qu'il fit lors de la venue de Martin Luther King à Lyon à la Bourse du Travail le 29 mars 66. Ce sont les quelques lignes qui présentent cette conférence qui a lieu ce samedi 31 mars à 14h30. Il reste encore quelques événements pour cette exposition. Certes, la figure du nègre au théâtre 1787-1847, c'est terminé, c'était le samedi 3 mars, est également terminé. Un noir, c'est de quelle couleur? Illustration pour la case de l'oncle Tom. Cette phrase, vous l'avez piquée à Jean Genet, hein, c'est bien ça. C'était le mercredi 21 février, c'était l'après-midi à 15h30. Enfin voilà, différentes choses, l'heure de la découverte, vous l'avez tout à fait indiqué. C'est inscription en ligne, et donc vous dites c'est terminé pour ce samedi 31 mars, là c'est complet.
Oui, une chose aussi...
C'est filmé, non? Ce n'est pas filmé, ces heures de la découverte, c'est
non, mais l'exposition, ce qui est important de dire pour nos auditeurs, s'ils sont dans l'impossibilité de se déplacer ou sont à l'étranger, ils peuvent voir tout ça sur le net, l'exposition et les différentes interviews que j'ai réalisées de Robert Vial, entre autres, qui nous a quittés l'année passée, et de Christian Delorme, entre autres, sont en ligne, étant donc accessibles avec les différentes photos.
Elles existent indépendamment sur YouTube, je les mettrai sur le blog de l'émission. Peut-être qu'on pourrait terminer cette brochure, puis terminer l'émission par le documentaire Ouvrir la voie, projection débat le samedi 21 avril. À une époque, ce devait être le 21 avril, la fin de l'exposition, c'est ça? Non, c'était prévu le 28, la semaine d'après, puis finalement
c'est le 12 mai.
Encore, voilà, c'est le 12 mai, ce sera donc prolongé. Projection débat à 14h30, toujours à la bibliothèque de la Part-Dieu. Ouvrir la voie, un film documentaire écrit et réalisé par Amandine Gay, Bras de Fer Productions, France 2017. Et donc c'est un documentaire sur les femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Le film est centré sur l'expérience de la différence en tant que femme noire et des clichés spécifiques liés à ces deux dimensions indissociables de notre identité, femme et noire.
Je vous propose, l'émission,
oui.
On pourrait dire femme, noire et homosexuelle. Non, mais j'en remets une couche, parce que pendant qu'on y est, et comme il est ici, c'est un espace, on peut tout dire, donc j'y vais. Et donc, un scoop, Angela Davis a annoncé qu'elle était lesbienne. Donc voilà, elle est donc noire, elle est femme, et elle est lesbienne, et bravo Angela pour son courage.
On la voit dans l'exposition,
elle est toujours vivante, parce qu'on n'arrête pas de parler des morts, mais il y a encore quelques gens qui... Et entre autres, cette femme qui est admirable, qui a fait de la prison, qui a été très liée avec les Black Panthers, avec Jean Genet. Donc voilà, parce que mine de rien, les expositions, entre autres, dont je suis le commissaire, il y a quand même des liens.
Ah, bon, au moins cela aurait été dit. Le mot de la fin, il est pour vous, Julien. Je diffuserai ensuite Ouvrir la voie, un extra qui est justement sur le mot. Il s'agit d'un black. Cela est disponible, je le mettrai également sur le blog. On va terminer comme ça, il n'y aura pas de générique de fin. Donc le mot de la fin, c'est pour vous, Julien.
Le mot de la fin, c'est une bonne question. Et justement, je vais peut-être inviter nos auditeurs à se poser la question. En lien avec le titre de l'exposition, Martin Luther King, un rêve brisé. Il faut s'interroger, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de tout ça? Est-ce qu'on fait perdurer ses vertus, son courage? Est-ce qu'on le complémente avec d'autres grands personnages de l'histoire qui se sont battus aussi pour les droits? Alors pas toujours de manière aussi pacifiste, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il faut se poser la question, où va-t-on?
Oui, c'est très grave. Je voulais faire des annonces, je vais pas les faire parce que c'est pas possible. Il y a pourtant Mademoiselle Julie qui est au théâtre à l'espace 44. Il y a également La Passion selon Saint-Mathieu qui va être donnée. Et puis la semaine prochaine, nous recevons Philippe Forget, un ténor, pour chanter du Eric Satie. Mais je crois qu'après
La Passion selon Saint-Mathieu qui a fait l'objet d'un très beau film de Pier Paolo Pasolini.
Ah ben oui, mais après ça, Julien, qu'est-ce que nous faisons? Que faisons-nous? Eh bien, écoutons Ouvrir la voie, cet extra. Et puis je vous dis, on se revoit. Michel, Julien, on se reverra une prochaine fois, que ce soit dans le cadre de la bibliothèque ou pas, pour parler de photos ou d'autres choses. Auditeurs, restez à l'écoute, le panorama hebdo est à venir, mais tout d'abord, Ouvrir la voie, c'est un extrait, c'est un extra de ce documentaire qui est projeté le samedi 21 avril. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu, bon après-midi à tous et puis ciao. Merci encore, au revoir.
C'est comme l'histoire du mot noir, quoi. Beaucoup de personnes vont te dire gens de couleur, black, etc., parce que c'est mal de dire le mot noir. Ce n'est pas mal de dire le mot noir. C'est juste qu'on a rendu tabou et on place le racisme là où il n'est pas.
Et je ne sais pas le nombre de fois que j'ai entendu black. Les gens, ils ne veulent pas dire le mot noir. C'est quand même un problème. Tu peux pas... Tu peux même... C'est, pour eux, c'est comme si c'était une injure de te dire que tu es noir.
C'est une stratégie d'évitement. Et je trouve que dans un pays comme la France, qui est tellement attaché à sa langue, qui est capable d'organiser des débats, de voter des lois, l'orthographe, on a l'Académie française, enfin voilà. Et je trouve qu'en France, on a du mal à nommer ce qui est perçu comme une différence. Pas seulement la différence, mais la différence qui peut être problématique. Donc je trouve que black, ça participe de ça.
Ça, c'est le truc que je rectifie à tout le monde. Si tu me dis black, je dis noir. Tu veux dire noir ? Oui, oui, je suis noire.
À chaque fois qu'on me dit black pour dire noir, enfin ça, je comprends pas non plus. À chaque fois, je me bats. Mais c'est la même chose. Ben non, c'est la même chose, en fait. On est en France. Moi, je t'appelle pas white, donc m'appelle pas black, quoi.
On pourrait très bien dire, oui, les white... Bon, voilà, on pourrait très bien le faire, on le fait pas.
Non, personne n'utilise white, alors que ça choque personne de dire black, même à la télé.
J'ai regardé une série Esprit criminel. Oui, il s'agit d'un black. Pourquoi dans toute une série, tout est traduit en français, sauf le mot noir? Et ça, c'est, on pourrait compter. Je crois que dans 80% des séries, on a le mot black qui ressort.
J'ai toujours trouvé ça bizarre. Sinon, dans le langage courant, il y a aussi dire renoi pour éviter de dire noir. En fait, le but de tout ce jeu-là, c'est de ne pas dire noir. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que dire noir, c'est être raciste.
Ça leur fait peur d'utiliser le mot noir. On me l'a dit au travail. Oui, mais quand je dis noir, j'ai peur qu'on pense que c'est pour vous insulter.
Voilà, il y a un petit truc qui montre le malaise, le positionnement ambigu. Et voilà, c'est ça que ça reflète. Donc, qu'est-ce qu'on n'ose pas dire quand on... En gros, tout le monde dit black facilement. Enfin, souvent, on peut dire black facilement. Et on a énormément de mal à dire noir. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire?